Voilà, il est. Ça marche, hein? Il est 10h30. Si on veut entamer le débat, c'est maintenant, bien sûr. Je ne sais pas trop s'il y a des micros qui peuvent circuler. Si, Jean me dit qu'il y en a deux. Donc, n'hésitez pas, jetez-vous à l'eau avant de vous jeter dans le froid. Pour nous, c'est déjà fait en bas, merci. Une question par là. Qui veut ?
Une note, Philippe, tu donnes et puis tu nous dis de.
Oui, bonsoir. J'avais une question par rapport à ces directives. Est-ce qu'elles peuvent être reproposées à l'infini comme une mauvaise herbe ? Puisque c'est des choses qui ont apparemment été abandonnées à un moment. Est-ce qu'elles peuvent revenir à l'infini sous d'autres formes et d'autres noms ? Parce que sinon, ça, du coup, à chaque fois qu'elles repartent, il faudra recommencer le traitement, quoi.
On va peut-être en prendre plusieurs, oui. Alors, vas-y.
J'y crois en plus. J'ai deux questions, une à Gérard et puis une à Francis Wurtz. Pardonnez-moi, je ne sais pas comment on prononce votre nom. J'ai bien fait, donc. Donc, pour Gérard, tu as dit à propos de Hong Kong que tu as parlé de broutilles dans la rue. Moi, je trouve que c'est un peu fort de café quand même. Il faut prendre ça au sérieux, c'est-à-dire c'est quand même la manière dont on traite une opposition démocratique aujourd'hui à l'OMC. À l'OMC, oui. Vous avez été. Il y a eu 1300 personnes d'arrêter alors que c'était un sit-in pacifique. Tu as passé 40 heures en prison dans des conditions qui sont pas très confortables. On le sait. Et puis, il y a 14 personnes qui sont restées après la libération des 1300 moins 14. Je trouve que ça, c'est une question vraiment sérieuse. C'est-à-dire, c'est comment on maltraite l'opposition démocratique. Et l'OMC, on sait bien qu'elle n'a aucune légitimité. Elle est complètement indépendante, n'a aucun compte à rendre, ni aux agences de l'ONU, ni au Parlement. On le sait bien, ça. Et il n'y a aucun représentant, évidemment, des citoyens, des syndicats. Donc, quand tu dis broutille dans la rue, Gérard, je trouve que c'est manquer un peu le sens politique, là, pardonne-moi. Hein. Je le connais bien, je peux me permettre. Et la question à Francis Wurtz, alors c'est peut-être une question naïve, là, hein. C'est que quand on voit que la gauche, dans la fameuse commission du marché intérieur, a rejeté pour cette... je me plante. Il y a eu 7 rejets sur 40. Donc, évidemment, la droite et une partie de la gauche. Bon, je sais ce que c'est que les socialistes libéraux, je sais ce que c'est. Simplement, je voudrais savoir comment ces gens-là, hein, je parle de la gauche libérale, quels arguments ils osent utiliser pour refuser le rejet. Parce que là, il faut pas avoir honte, hein, quand même. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent dire, comment ils peuvent le soutenir.
Bon, les questions... Une quatrième ?
Non, je voudrais poser une question, c'est savoir pourquoi il y a un 11 février, pourquoi il y a un 14 février, pourquoi on parle d'unité, on n'est pas capable de le libéralisme, il va tellement vite que si on ne construit pas un mur en béton pour qu'il s'écrase dessus, si on lui construit un mur de briques, il va passer à travers. Si on lui construit par notre unité un mur en béton, il va s'écraser dessus. C'est le principe, c'est qu'il vienne s'écraser sur le mur en béton. Une. Et ça, c'est inadmissible. Je reviendrai sur ce qu'il a dit le camarade des chantiers. Pourquoi il n'y a qu'un seul syndicat à Saint-Nazaire qui a pris la défense dans une ville socialiste, qui a pris la défense des travailleurs, des camarades qui travaillent dans des conditions lamentables? Pourquoi dans une ville où le député maire il pleurait de voir un quartier de Saint-Nazaire pleurer, partir, c'était le Queen Mary qui marche pas d'ailleurs, il est toujours en panne. Et pourquoi ça, on sait pas, il y a des procès au cul, il y a des tas de problèmes. Et voilà, le résultat, c'est qu'on fabrique de la merde en ce moment avec. On fait n'importe quoi. Voilà. Moi, je suis révolté de voir toutes les divisions qui existent entre nous, quoi. aujourd'hui, il faut construire un front populaire, absolument, parce que Bolchevichen, il vient nous engendrer un galouzeau de Villepin qui est en train de nous monter une fusée à 3 étages. Le CNE, personne n'a rien dit pour le CNE. Le CPE, tout le monde va se mobiliser pour le CPE. Mais le CPE, le CNE, c'est exactement pareil. Et le troisième étage de sa fusée, ça va être le contrat unique de travail. Donc, galouzeau de Villepin, il a mis 9 mois. Bon, Bolchevichen, il l'a fabriqué. Il a mis 9 mois pour venir. Bon, voilà le résultat. Le libéralisme, il va très très vite en ce moment. Il est en train de nous prendre de court. Il faut absolument arrêter nos petites conneries de discussion d'intellectuels ou je sais pas quoi. Il faut construire un front populaire. Il faut construire quelque chose de solide. Il faut qu'on se batte réellement. Il ne faut plus tourner autour du pot. Sinon, on est foutus.
Bon, qui est-ce qui ne tourne pas autour du pot le premier, là ?
Oui, bonsoir. J'ai une question à poser. Monsieur les députés, bonsoir. Vous avez évoqué tout à l'heure donc le rejet quand vous avez parlé de marché intérieur, donc il y avait un rejet 7 voix contre 33, si je me sens bien. Je voudrais revenir sur, au sein du Parti Socialiste français, est-ce qu'il y a une division ou alors est-ce qu'il y a une unanimité pour rejeter cette directive Bolkestein, ou alors, parce que si j'ai bien compris, il y a une division au sein du Parti Socialiste européen, et puis quelle est l'attitude du Parti Socialiste français? Merci beaucoup.
Moi, je pense qu'on peut commencer à répondre, sinon on va faire un truc, un vrai gâteau de communion. On va commencer à répondre.
Bien. La directive peut-elle être représentée? La Commission, d'après les traités européens, peut intervenir comme elle veut, quand elle veut, à tout moment du processus engagé. Effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, l'impulsion de départ, c'est le Conseil. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui donnent un mandat à la Commission disant il faut travailler sur tel sujet. Ensuite, la Commission peut faire un texte quand elle l'entend. Par exemple, normalement, le Parlement européen va voter sur le projet de directive. Normalement, une fois que le Parlement a voté, ça doit passer au Conseil des ministres, puis revenir au Parlement, puis retourner au Conseil des ministres, etc. Or, la Commission a déjà annoncé maintenant, avant qu'on ait voté, que tout de suite après le vote du Parlement, après le premier vote du Parlement, pas le deuxième ou le troisième, après le premier vote, tout de suite, elle va proposer un nouveau texte. Elle le peut. De même qu'elle peut, même si le texte est rejeté, décider de redéposer à peu près le même. C'est exactement ce qu'elle a fait avec la directive sur la libéralisation des services portuaires. Il y a 3 ans, 2 ans et demi, la Commission avait été, ce qui est assez exceptionnel, battue par une majorité absolue de parlementaires sur la directive portuaire. Et la même commissaire, Madame de Palacio, la même, celle qui a été battue personnellement par le Parlement sur sa directive, 15 jours avant la fin de son mandat, avant que la Commission ne change, elle a redéposé quasiment le même texte, pour que son successeur soit de fait obligé, parce que ça ne veut pas dire que les suivants aient eu besoin de se faire bousculer par la précédente commission pour le faire, mais pour laisser en quelque sorte un héritage la directive sur laquelle elle a été battue. Bon, vous me direz, ça la fera réfléchir une autre fois, parce que là, elle a été super battue. Mais du point de vue institutionnel, la Commission peut à tout moment déposer un texte, redéposer un texte ou en déposer un nouveau. Un mot également sur la question qui m'a été posée sur l'attitude de la gauche au sein de la Commission du marché intérieur ou demain peut-être en plénière. Je suis effaré effectivement par ce constat. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Ce n'est pas une partie de la gauche qui n'a pas voté le rejet en commission du marché intérieur, c'est la majorité de la gauche, toute la droite et la majorité de la gauche, qui n'a pas voté le rejet. Pourquoi ? C'est difficile à dire, je ne veux pas faire de polémique, mais je donne ma conviction. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Pour les uns, ils estiment que ce n'est pas sérieux. Ça ne passera pas, pourquoi jouer à ça ? Ce qu'il faut, c'est travailler dans les institutions, comme il faut travailler sérieusement, c'est-à-dire voir comment on peut aménager le texte. Ça leur paraît être des affaires de trublions extrémistes. Il y en a, qui sont un peu des caricatures. Il y en a d'autres qui sont contre le rejet, clairement, parce qu'ils sont pour la libéralisation des services, même s'ils ne sont pas d'accord avec la façon extrême avec laquelle la Commission envisage cette libéralisation. Mais ils sont fondamentalement pour la libéralisation des services, pour le marché unique, pour l'Europe libérale. Et s'ils ne le disent pas exactement dans ces mots, ils ne cachent pas leur attachement à l'Europe actuelle. Je peux vous donner livrer une anecdote en deux mots. Pendant la campagne pour le non, j'ai fait beaucoup de débats contradictoires avec des partisans du oui. Notamment, j'en ai fait un avec Pascal Lamy, qui à l'époque était commissaire européen socialiste français. C'était dans sa ville d'origine, à Gisors. Et à un moment, il y avait une salle bondée de gens qui le connaissaient, surtout lui, plus que moi. Et à un moment donné, quelqu'un me dit, mais vous parlez tout le temps d'Europe libérale, pouvez-vous définir ce que vous entendez par Europe libérale ? Puis j'égrène un certain nombre de choses, libre circulation des capitaux, obligation d'ouvrir les services publics à la concurrence, banque centrale européenne indépendante et branchée sur les marchés financiers, blablabla. Et je dis, c'est contre ça que je me bats. Et Pascal Lamy, sincèrement estomaqué, dit, mais ce que vous venez de dénoncer, c'est pas l'Europe libérale, ce que vous venez de dénoncer, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Mais il était tout à fait sincère. C'est l'Europe. Il ne conçoit pas, il y a des gens qui ne conçoivent pas qu'il puisse y avoir une autre conception de la construction européenne. C'est comme ça. Bon. Donc je pense qu'il y a un peu de tout ça dans l'attitude des socialistes qui, pour le moment du moins, refusent le rejet. Un mot sur le Parti socialiste français. Je ne suis pas payé pour faire la propagande du Parti socialiste français. Dieu m'en préserve s'il existe. Cela dit, pour une raison très compréhensible, les députés socialistes français au Parlement européen suivent avec attention, toutes tendances confondues, ce que fait notre groupe et évite sur les sujets très sensibles de trop s'en éloigner. Donc, à la Commission du marché intérieur, ils ont tous voté notre motion de rejet. Ou disons, la motion de rejet. C'est pas notre, la motion de rejet. Parce qu'avant, il y avait quand même la campagne en France, et c'est difficile de s'expliquer si on fait autrement. Mais je ne leur jette pas la pierre, tant mieux, j'aimerais que tous fassent comme ça. Le problème, c'est pas de sonder les reins et les cœurs, c'est qu'au résultat du vote, on puisse battre Bolkestein.
Oui, sur deux points. D'abord, pour rebondir sur ce qu'a dit Francis, sur est-ce que la directive peut revenir à l'infini, etc., il y a une raison, au-delà des raisons qu'il a données, qui fait que la Commission peut reposer cette directive à n'importe quel moment, c'est que dans les traités même, hein, la direction a les pouvoirs les plus étendus en matière de concurrence. Bon. Et donc, je veux dire, de ce point de vue-là, c'est elle qui juge si elle doit ou pas proposer des règlements ou des directives qui permettent d'élargir sans cesse le marché et de faire appliquer le mieux possible le droit de la concurrence. Bon. Donc de ce point de vue-là, évidemment, la directive qui a le monopole de présentation des directives, c'est-à-dire des lois européennes, peut vraiment faire ce qu'elle veut. Ensuite, on peut repousser les directives, elles peuvent être repoussées, etc. Mais, je veux dire, elle a la plus grande capacité, hein, les plus grandes possibilités d'initiative. Deuxième point, sur les affaires du 11, du 14 février, et les affaires de division. Bon. Nous avions réussi, le 19 mars de l'année dernière, une très grande manifestation unitaire. Bon, à Bruxelles, hein, Francis en a parlé, il y avait plus de 100 000 personnes qui regroupaient tous les syndicats européens, toutes les composantes du mouvement altermondialiste en Europe, et ça avait été un succès considérable. Bon. Ça avait été un succès qui n'avait pas été obtenu sans mal. Enfin, pour la petite histoire, la date du 19 mars était issue du Forum social européen de Londres, avait été discutée dans ce cadre-là avec la CES à l'époque. Il y a eu des débats qui avaient été extrêmement durs à l'intérieur de la CES autour de cette date-là, mais on avait abouti à une manifestation commune. Bon. Là, on n'a pas réussi à aboutir à une manifestation commune. Alors, quelles en sont les raisons? Bon. Il y a d'abord le fait que... pour beaucoup de mouvements sociaux, nous étions pour une manifestation un samedi, c'est-à-dire une manifestation, une journée, même au-delà même de la manifestation, une journée de mobilisation européenne un samedi, c'est-à-dire qui permettait ce que, on va dire, l'ensemble des peuples et des populations d'Europe puissent se mobiliser, pas en semaine, parce qu'on sait que c'est plus difficile de se mobiliser en semaine, mais un samedi. La CES était pour pour simplement une journée à Strasbourg, une manifestation européenne à Strasbourg, et il voulait le faire en semaine, parce qu'il disait, à juste titre de ce point de vue, qu'en semaine, il y a les parlementaires européens, et donc, qui sont présents, alors que le samedi, il n'y a pas de parlementaires européens, c'est vrai, et que donc, il pourrait intervenir auprès des parlementaires européens, rencontrer les chefs des groupes parlementaires, essayer de faire pression, etc., etc. Bon. Donc, il y a eu des discussions qui ont été menées avec la CES, entre la CES et le Forum social belge, qui représentait un peu les mouvements altermondialistes en Europe, et qui n'ont pas réussi à aboutir sur une date commune. Bon. Alors, quelles sont les raisons au-delà de la raison factuelle samedi ou mardi? On ne peut faire que des hypothèses dans cette affaire-là. Bon. Il y a une hypothèse, c'est que, qui est peut-être une hypothèse un peu polémique, mais qu'il faut bien quand même avoir en tête, c'est que, je veux dire, il y a des orientations qui sont des orientations différentes entre ce qui est la CES aujourd'hui et son orientation dominante, en tout cas dans la CES, qui pratique un syndicalisme d'accompagnement des politiques néolibérales en Europe, et ce qui est, disons, l'orientation d'autres forces du mouvement social, du mouvement altermondialiste en Europe, qui se bat pour une autre Europe. Bon. Donc il y a des problèmes qui renvoient à des conceptions différentes de la lutte politique et syndicale en Europe. Bon. Ça, c'est la première, donc des divergences qui existent, qui ne sont pas nouvelles, mais qu'on connaît. Bon. La deuxième chose, c'est le fait que je pense que la CES a mal vécu, en tout cas beaucoup d'organisations de la CES, ont mal vécu la manif du 19 mars. Où en fait, cette manif, alors que la CES appelait à voter oui au traité de constitution européenne, a été une manif contre la constitution européenne. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont assez mal vécu. Bon. Tout ça pour dire que on s'est retrouvé dans une situation qui n'était que... qui est ce qu'elle est aujourd'hui, dont on espère qu'elle ne perdurera pas dans l'avenir, c'est-à-dire qu'on réussira pour les prochaines échéances qui vont avoir lieu inévitablement sur la directive, de réussir à reconstruire cette unité totalement indispensable malgré les divergences qu'on peut avoir. Parce que malgré les divergences qu'on peut avoir, je pense qu'il est totalement indispensable de réussir à construire un front commun à l'échelle européenne. Mais force est de constater que pour cette échéance-là, autour du vote du Parlement européen, on n'a pas réussi. Maintenant, il faut prendre acte de cette affaire et faire en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les deux initiatives soient réussies. Parce que rien ne serait pire que les initiatives soient un échec parce qu'il y a un processus de division. Donc il faut faire en sorte que les deux initiatives soient réussies. On sait qu'on ne sera pas dans un processus de mobilisation à la hauteur des enjeux. Il n'y aura pas un nouveau 19 mars. hein, ni le 11 février à Strasbourg, ni le 14 février à Strasbourg. Ça ne sera pas de cette hauteur-là, nous le savons tous. Ça sera des manifestations plus réduites. Mais il faut néanmoins que prendre appui, enfin faire en sorte qu'elle soit la plus grosse possible, et essayer, je veux dire, par la suite, de rétablir ce front uni que nous avons réussi à construire le 19 mars de l'année dernière.
Avant qu'il y ait d'autres questions, si vous en avez, je tiens à signaler à ceux qui s'en vont et qui croient échapper à nos sbires et vigiles pour verser leur obol, que c'est foutu, ils sont repérés, on a la liste. Enfin bref, on est terrible. Non mais n'oubliez pas, tout ça coûte des sous. Bon, c'est pas énorme, hein, on est pas. Mais n'empêche, versez votre bol et puis ça permettra peut-être faire partir ce Sacré-Cœur pour Strasbourg dont vient parler Pierre pour le 11 février. Voilà, s'il y a d'autres questions, on y va. Ah, à droite là-bas.
Oui. Donc moi je chemine, je réfléchis. C'est pour ça que je suis venue ici ce soir. Je doute. Je pense que dans notre communication contre Bolkestein, il faut qu'on fasse très très attention. D'une part, je pense que ça a déjà été dit par rapport au traité européen, de constitution européenne, de dire que c'est pas contre les Polonais, contre les Maltais, mais pour tout le monde, et qu'on veut un nivellement par le haut, contrairement au nivellement par le bas qu'amènerait Bolkestein. Mais je crois aussi qu'il faut qu'on fasse attention à notre communication sur le... Ben, faire la même chose au niveau mondial. Parce que moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui disent « Oui, c'est bien de défendre nos salaires et faire monter les salaires partout en Europe, mais il faut faire attention aussi qu'au niveau mondial, ce soit possible. » Et je pense qu'il faut amener la réflexion jusque-là. Tout comme le monsieur de la Confédération Paysanne disait ben, « On défend les paysans français, mais c'est aussi... » la paysannerie du monde entier. Je pense que là aussi, il faut qu'on fasse attention à ça, parce que c'est, faut pas qu'on soit dans une Europe forteresse où on a nos droits sociaux, on les défend, et à côté, on exploite le reste du monde, enfin la Chine et l'Afrique, etc. Quoi. Donc voilà, j'amène ça sur le tapis. Je pense que c'est vraiment important, parce qu'il y a des gens qui seraient sensibilisables et qui s'opposent un peu à ça à cause de ça.
Merci. Moi, j'avais une anecdote et une question. Alors pour l'anecdote, on a dans l'ouest de la France un grand quotidien régional qui, au printemps dernier, consacrait quotidiennement 2 pages à la question de l'Europe. Et il y a 2 semaines, on a vu dans la rubrique qui s'appelle « Ailleurs dans le monde », rubrique où habituellement on a les petites catastrophes qui sont passées très très loin. Alors on a lu un entrefilet en 4 lignes qui disait en substance « Le Parlement européen a voté une résolution à propos de la mise en application d'une version amendée de la Constitution européenne à l'horizon 2009. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment ce jour-là? C'est une question pour Francis Wurtz. Ah, je ne
sais pas très bien. Le rapport sur la Constitution européenne qui a été voté il y a pas longtemps.
On y répond peut-être tout de suite avant d'avoir oublié la question. Parce que sinon, ce genre de truc, au quart d'heure après...
Je peux dire un mot sur la première question aussi. Vous avez tout à fait raison. L'histoire du plombier polonais, c'est terrible. L'expression vient d'ailleurs de M. Bolkestein. Et elle nous est accolée. Et c'est évidemment terrible. Parce que ça donne une connotation poujadiste, voire xénophobe, à une revendication... progressiste. Donc c'est extrêmement important de s'expliquer. À cet égard, un exemple. J'étais l'autre jour à Vienne, en Autriche, où on m'a expliqué qu'ils ont un problème un petit peu de même nature, mais avec l'Allemagne. Donc ça m'a intéressé, parce que c'est justement l'inverse. C'est un petit pays avec la plus grande puissance économique de l'Union européenne. Lequel le problème ? Bien, il y a dans les traités européens la libre circulation des hommes, des femmes, des personnes, donc aussi des étudiants. Or, en Allemagne, il y a le numerus clausus, c'est-à-dire qu'en fac de médecine, puisqu'on est en fac de médecine, il y a un nombre donné de places et il y a donc un nombre limité d'étudiants qui peuvent accéder au cursus chaque année. En Autriche, ça n'existe pas, c'est une tradition, il y a une liberté d'accès. Ils en sont fiers. Et ce qui fait que dans la fac de médecine de Vienne,
il n'y a quasiment plus de place pour les étudiants viennois ou autrichiens parce qu'il y a une véritable invasion d'étudiants allemands, puisque ce sont deux pays limitrophes qui parlent la même langue, qui ont une culture très proche et un niveau d'études similaire, sauf que dans un cas, il n'y a plus de place, dans l'autre, il y en a. Donc, ils disent, on est gênés, nous, on n'a rien contre nos copains allemands, mais on voudrait pouvoir faire nos études. Et donc, maintenant, donc, l'Autriche avait, comme la discussion ne donnait rien, avait pris une mesure, en quelque sorte, d'un quota, c'est-à-dire... les étudiants étrangers sont les bienvenus, mais dans la limite d'un quota. Ils ont été condamnés par la Cour de justice parce que c'est une violation des traités, une violation de la libre circulation. Et donc, résultat des courses, ils vont maintenant instaurer un numerus clausus en Autriche, à Vienne. Voilà typiquement cette espèce de mise en concurrence sans rivage, sans réflexion, sans intervention politique, de telle manière qu'une règle juste, en l'occurrence la possibilité pour les étudiants de faire des études ailleurs, c'est une règle juste. C'est ça aussi un élément de l'Europe. Mais aucune intervention politique permettant d'éviter qu'une règle juste devienne une réalité injuste. Donc ce n'est pas du tout un problème vis-à-vis des travailleurs polonais, c'est un problème vis-à-vis d'institutions qui sont faites pour mettre en concurrence, alors qu'il faudrait des institutions coopératives. Ensuite, sur le rapport sur la Constitution, oui, il y a une commission parlementaire qui s'appelle la Commission des affaires constitutionnelles, et comme tout le monde ronge son frein dans les institutions européennes pour savoir comment sortir de la situation créée par la victoire du non en France et aux Pays-Bas, et que la présidence autrichienne qui actuellement dirige aux affaires de l'Union est sommée de tirer les conclusions de la période de réflexion ouverte après le 1er juin d'ici la fin de la présidence, c'est-à-dire dans 6 mois, bien tout le monde s'agite. Donc la Commission des affaires constitutionnelles a nommé 2 rapporteurs, un vert autrichien et un libéral britannique, qui ont été chargés d'établir un rapport pour faire des propositions. Comment sortir de l'impasse? Et alors, ils ont trouvé une solution typique d'une situation sans issue. Ils ont d'abord dit, nous, on veut l'ouverture. Nous, on veut discuter. Il faut donner la parole aux citoyens. Il faut donc organiser des grands débats citoyens partout. Aider les gens à s'exprimer librement, voilà. Enfin, on ne pouvait vraiment qu'être d'accord. Mais quelques paragraphes plus loin, ils ont dit, mais en tout état de cause, donc toutes les opinions peuvent s'exprimer, pas d'a priori, mais quelques paragraphes suivants, en tout état de cause, en 2009, la constitution actuelle doit s'appliquer. Et puis par ailleurs, il s'agit surtout de rassurer les citoyens. Donc c'est vraiment pas sérieux. Moi, je leur ai dit, c'est vraiment, vous entr'ouvrez la fenêtre et puis vous la refermez à grand fracas, à peine entr'ouverte. Débat citoyen, oui, sans a priori, mais en acceptant de tirer les conclusions de ce qui sortira de ce débat. Sinon, ce n'est pas un débat, c'est de la com. Et c'est ça, je pense, dont vous avez entendu parler.